Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 90, chapitre 13. Ce phénomène de l'illusion des objets, d'après les lettres du Christ, expliquait les miracles que Jésus de Nazareth réalisa aussitôt après les 6 semaines dans le désert. Nous avions tout intérêt à l'écouter dans notre monde livré aux affres du mental. L'origine de la création du monde n'était ni celle que les prêtres interprétaient de la Bible dans la Genèse, ni celle des évolutionnistes. Je ne trouvais pas l'explication plus absurde, plutôt beaucoup moins. La science croyait que la dimension physique était le début et la fin de l'existence, et c'était une erreur fondamentale. Les anciens, devant la beauté et la perfection du monde, ne pouvaient qu'imaginer une baguette magique tenue par un homme supérieur sage et présent partout, jusqu'à la moindre particule qui reproduit dans une taille infime la complexité de n'importe quel corps. La science avait toujours ce modèle en vue et son développement se fit en opposition et toujours en relation avec lui, qu'elle trouvait justement absurde. Elle définit que seul le visible était réel. C'était une autre aberration. Il va sans dire que j'avais considéré moi-même les deux théories comme insatisfaisantes. La biblique m'avait toujours paru caricaturale et la scientifique incomplète. L'évolution m'apparaissait tristement cohérente. Tristement, car elle m'amenait à l'athéisme et donc à la conclusion que ma mort serait le néant, ce vide incommensurable qui me faisait si peur. Toutefois, je reprenais espoir avec l'anomalie liée au Big Bang. Quelle était l'impulsion qu'il avait créée? Il fallait bien une origine consciente, et cette conscience elle-même, de quoi était-elle née? Ce qu'en disaient les lettres me parlait. La cellule vivante, vous dit votre science, se reproduit sans fin dans des milliards et des milliards de formes différentes. C'est le matériau de construction de l'univers visible. Comment cela se peut-il? Quelle est l'impulsion qui motive une telle reproduction? La science ne peut pas le dire. Retranchée derrière sa propre cécité, elle se circonscrit et les gens avec elle dans une cécité matérialiste. La finalité présente dans chaque cellule est bien la preuve d'une intelligence globale. Pour comprendre l'univers, les lettres posent l'électromagnétisme comme un élément central, c'est-à-dire la force d'interaction entre les particules. Elles affirment tout d'abord que rien ne vient de rien. C'était bien ce qui m'avait empêché de parfaitement assimiler le Big Bang. Il y a un fondement de l'être éternel, infini et constant. L'homme n'a pas été créé. Il a tiré son être de cela. L'homme tire son être de quelque chose d'immense. La volonté de créativité est expression de soi. Tout l'univers est de la conscience rendue visible. Les lettres ajoutent qu'un individu seul, un esprit individualisé, ne peut comprendre cette source de l'être de laquelle il tire son existence. S'il la voyait, il serait immédiatement désintégré par sa puissance explosive et dissous dans la conscience, connaissance sans forme. La dimension universelle de conscience de laquelle tout est issu est inaccessible et en équilibre. C'est un état de silence et d'immobilité. Elle est le vide, car c'est le vide qui crée la matière, et le vide n'est pas visible sans la matière. En lisant ces lignes, je me souvins d'une note qui parlait également du vide de l'univers. Je l'avais prise du livre d'Eckhart Tolle. Je lisais plusieurs textes en parallèle, comme autant de livres ouverts sur mon établi de petit homme cherchant à approcher la vérité. Tolle écrivait « Avant la création de l'univers, ou le Big Bang si vous préférez, il n'y avait aucun vaste espace attendant d'être rempli. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait rien. » Il n'y avait que le non-manifeste, l'un. Quand l'un est devenu 10 000 choses, l'espace a soudain semblé faire son apparition et permettre à la multiplicité d'exister. D'où est-il venu? Dieu l'a-t-il créé pour y loger l'univers? Bien sûr que non. Étant donné que l'espace n'est rien, il n'a jamais été créé.